Donc, inshallah, on va, comme on a assez perdu de temps, on va essayer d'en gagner un petit peu en abordant ce thème qui est très important, c'est le thème du temps. Alors, vous savez très bien que le temps, vous entendez souvent une expression que tout le monde dit, le temps, c'est de l'argent. Al-waqt min dhahab. Le temps, c'est de l'argent. J'irai un petit peu plus loin, je dirais que le temps, c'est plus que de l'argent. Parce que l'argent, quand tu perds l'argent, tu peux te rattraper. Tu peux avoir de l'argent. Même si tu en perds, tu peux le récupérer. Par contre, le temps, une fois que c'est parti, c'est parti. Tu peux tout faire pour le récupérer, tu ne le récupéreras jamais. C'est la matinée d'aujourd'hui, personne ne peut pouvoir la récupérer. Et le fait de savoir que le temps a cette importance, il faut en déduire que le temps, donc, c'est le principal capital que possède l'être humain. Le temps, c'est notre principal capital. C'est ce qu'on a de plus cher. Et de ce fait, il faut avoir en tête cette importance et donc ne pas en gaspiller la moindre minute. Comme toute chose qui est chère, quelqu'un qui a de l'argent, qui a énormément d'argent, il fait attention pour ne pas en gaspiller. Et donc, sachant que le temps, c'est plus que de l'argent, il faut que la personne soit consciente et ne pas en perdre le moindre moment. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du temps dans le Coran. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises et dans plusieurs versets, Allah évoque le temps et jure par le temps. Vous savez qu'Allah, parce que c'est lui le créateur, il peut se permettre de jurer par les créatures. Mais nous, en tant que créatures, nous n'avons pas le droit de jurer par des créatures. La personne n'a pas le droit de dire « je jure par telle créature ». C'est défendu dans l'islam. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le créateur. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il jure, il jure par certains moments. Il jure par le temps, il jure par l'asr, il jure par l'fajr, il jure par plusieurs moments. C'est pour d'abord mettre en évidence l'importance de ces moments, mais de façon plus générale, pour mettre en évidence l'importance du temps. Le temps, Allah en parle dans le verset que vous connaissez, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah évoque ici le temps et montre son importance et montre également son but, c'est-à-dire pour quelle raison il a créé le temps. Il dit dans ce verset, c'est lui qui a fait de la nuit ou de la succession de la nuit et du jour, un moyen pour le fidèle de se rappeler de lui et de le remercier. Man arada an yadhakkara ou arada shukura. Il a également juré par al-fajr. C'est pour montrer l'importance. Il a juré par al-asr dans ses deux sens. Al-asr en tant que prière, mais aussi l'asr en tant que temps. Donc le temps, c'est la vie. Et vous ne pouvez vous en rendre compte que lorsque vous prenez un chronomètre et vous le mettez sur les secondes et vous laissez défiler, et moi je vous donne un conseil, mettez-vous dans un endroit isolé entre vous et le chronomètre. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai pris le chronomètre et je me suis mis dans un endroit tout seul. J'ai actionné le chronomètre et j'ai vu défiler ma vie. Si vous voyez à quelle vitesse notre vie s'en va, vous en rendez compte seulement quand vous mettez dans ces conditions-là. Là, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est entre tout le monde. Mais lorsque vous mettez en face de vous-même et que vous laissez découler les secondes, vous voyez à quelle vitesse vous vous rapprochez de la fin. Le temps, c'est notre vie. Chaque jour qui s'en va, c'est un jour de moins dans notre vie. C'est-à-dire que dès notre naissance, ça vous le savez, et tout le monde le sait, qu'il soit croyant ou pas croyant, chacun sait que dès qu'on est né, on est condamné à mort. Ça vous le savez. Et chacun attend le jour de l'exécution. Mais chacun va passer à l'exécution à une date précise que seul Allah peut déterminer. Mais vous voyez au même temps que chaque jour qui passe, en fait, c'est un jour de moins. C'est donc un décompte dans l'autre sens. Ça tend vers moins l'infini. Donc, sachant que le temps a cette importance, sachant que le temps, c'est notre vie, il faut en prendre soin. Il ne faut pas le gaspiller. Et les savants disent, le temps, il y a trois sortes de temps. Il y a un temps pour Allah, un temps pour Dunya, mais qui va vers Allah. Et le troisième, ou la troisième catégorie de temps, c'est le temps de Shaitan. Il n'y a pas un quatrième temps. Il y en a trois. Un temps pour Allah, un temps pour Dunya, dans le but d'atteindre le chemin d'Allah, et un temps pour Shaitan. La'anahullah. Donc, chacun doit s'interroger, à chaque moment qu'il se retrouve dans la vie, il doit s'interroger, en ce moment, je suis dans quelle catégorie de temps? Est-ce que je suis dans le temps qui appartient à Allah? Est-ce que je suis dans le temps qui sert à atteindre le chemin d'Allah ou qui sert le désir d'Allah? Et aussi, la dernière, est-ce que je ne suis pas dans un chemin ou dans un moment qui plaît à Shaitan? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique qui a été rapporté par At-Tirmidhi et min hadith Abi Barzat al-Aslami. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Personne ne bougera, personne ne se déplacera le jour de jugement de devant Allah que lorsqu'il aura répondu à quatre questions. Ces quatre questions, la première, ce ne sont pas des hadiths innovés, ce ne sont pas des choses nouvelles qu'on vous apporte, ce sont des choses que vous entendez souvent, que vous connaissez déjà, mais il faut pas seulement la connaissance, il faut la connaissance et l'application. Il faut prendre conscience de l'importance de ces mots. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « La yantiqu anil hawa », ce sont des paroles du prophète. Et quand il s'agit du prophète, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles d'une grande importance. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « La tazulu qadama abdin », c'est-à-dire que personne ne pourra effectuer un acte ou un geste devant Allah que lorsqu'il aura répondu à quatre questions. Quatre questions importantes. La première question, an umrihi fi ma afna, c'est-à-dire sa vie, où il l'a passé, comment il l'a passé, c'est-à-dire son temps, le temps qu'il a vécu, comment il l'a géré. C'est une question très importante à laquelle il faut être capable de répondre. La deuxième, an jismihi fima ablah. Et puis il y a une autre version, il y a une autre riwaya dans laquelle ils disent wa an shababihi fima ablah, c'est-à-dire an jismihi ou bien an shababihi. Les deux versions sont vraies. An jismihi, c'est-à-dire son corps. Qu'est-ce qu'il a fait de son corps? Est-ce qu'il l'a utilisé dans le bien ou est-ce qu'il l'a utilisé dans le mal? De la même manière, sa jeunesse. Comment il a passé sa jeunesse? Comment il l'a gaspillé? Est-ce qu'il l'a investi dans le bien ou il l'a gaspillé dans le mal? Wa an malihi. Il sera également posé, il sera questionné sur son argent, ce qu'il a possédé. Parce que le mal, c'est un mot qui désigne souvent l'argent, mais en fait, c'est plus large que l'argent. C'est le mal, c'est tout ce qui appartient à la personne. C'est pas loin de rizq. En fait, rizq, c'est tout ce que la personne possède, mais le mal a plus tendance à désigner l'argent. Mais en fait, c'est le bien, tous les biens que la personne possède. وعن ماله من أين اكتسبه d'où il a gagné et dans quoi il l'a investi. L'argent, c'est un peu spécifique, c'est spécial. On va lui poser la question, comment il l'a obtenu et dans quoi il l'a investi. Parce que la provenance du bien, c'est quelque chose de capital dans l'islam. Vous savez que quand la provenance de votre bien n'est pas halal, Allah n'accepte rien de ce que vous faites. Allah n'accepte rien de ce que vous faites. Allah n'accepte pas l'ibadah. La preuve se trouve dans le hadith du prophète dans lequel il dit « Ad-du'a huwa l'ibadah ». C'est un hadith authentique dans lequel le prophète il dit « Ad-du'a huwa l'ibadah ». Il y a aussi un hadith moins authentique que celui-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ad-du'a mukh al-ibada. Ce hadith comporte quelques aberrations selon les règles du hadith. On ne peut pas dire que c'est un hadith sahih. Mais le hadith sahih se trouve dans ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ad-du'a huwa al-ibada. Si Ad-du'a huwa al-ibada et que lorsque quelqu'un gagne de l'argent haram ou bien mange le haram, ou bien est habillé avec quelque chose de haram, Allah n'accepte pas son dua, ça veut dire que Allah n'accepte pas l'ibada. Parce que le dua, c'est l'ibada. Le dua, c'est l'ibada. Fa'idha kan Allah la yaqbalu man akala al-haram, wala man labisa al-haram, wala man yatasarraf fi al-haram, fama'na hadha anna Allah la yaqbalu ibadata man yakulu al-haram, ou yalbasa al-haram, ou yatasarraf fi al-haram. Ce qui est haram empêche l'acceptation des œuvres, empêche l'acceptation du culte. Donc, on comprend à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le temps est quelque chose de très très important et le plus intelligent, c'est celui qui utilise son temps à bon escient. Il ne perd pas une seconde, il ne perd pas un moment. Il y a un autre hadith que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, mais ce hadith se limite à Abdullah ibn Mas'ud, c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud a dit radiallahu anhu, ma nadimtu ala shay'in ka nadami ala yawmin gharubat shamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Il dit Abdullah ibn Mas'ud, et là on voit comment les compagnons ont vu l'importance du temps et comment ils considèrent le temps et comment ils nous apprennent à nous de ne pas laisser échapper une seconde et ne pas perdre de temps dans ce qui n'a pas d'intérêt. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je n'ai jamais regretté une journée autant que une journée dans laquelle je n'ai le temps de ma vie a diminué, mais aucune œuvre ne m'a permis d'avancer. c'est-à-dire la journée où je n'ai effectué aucune œuvre pour me rapprocher de Dieu, et c'est une journée qui part de ma vie, pour lui c'était une journée perdue. Une journée qu'il ne peut jamais rattraper. Pourquoi ? Parce que c'est une journée de moins dans sa vie, mais dans laquelle il n'a fait aucune œuvre. Il considère que c'est une grosse perte. غَرُوبَتْ شَمْسُهُ نَقَصَ فِيهِ أَجَلِي وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ عَمَلِي. مِنْ خَصَائِصِ الْوَقْتِ. Comme on a dit tout à l'heure, le temps, parmi ses spécificités, c'est que lorsque il part, on ne peut jamais le rattraper. Et malgré ça, malgré cette importance, on voit parmi, autour de nous, que beaucoup de gens passent leur temps. Ils essayent même de tuer le temps, comme ils le disent. On pose parfois, on voit des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent, pour passer le temps, et surtout pendant le ramadan, on voit des gens pendant le ramadan jouer des cartes. Quand tu leur poses la question « Pourquoi vous jouez des cartes ?» Et la journée, elle est longue. Il faut tuer le temps. Parce qu'ils trouvent que le temps est trop long. Donc, pour passer le temps, on fait n'importe quoi. C'est un temps perdu. C'est un temps, en fait, ils ne sont pas en train de tuer le temps. Ils sont en train de se tuer. Parce que le temps, c'est leur vie. Ils sont en train de se suicider. C'est un suicide. C'est quoi qui nous empêche? Quelles sont les raisons qui font que nous ne profitons pas de notre temps? C'est quoi qui nous empêche de gagner le temps et ne pas le tuer? Les savants, en citant un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ils ont dit que une des raisons qui fait que nous perdons notre temps, qui nous empêche de profiter de notre temps, la première chose, c'est ittiba'u al-hawa. Ittiba'u al-hawa, c'est-à-dire suivre ses passions. La personne, quand elle suit ses passions, elle perd son temps. Sa passion lui a dit de faire ça, elle fait ça. Elle ne prête aucune attention au temps perdu. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit ما ذكر الله الهوى في موقع من كتابه إلا وذمه. Dès qu'Allah parle de l'hawa dans le Coran, il nous fait que il le cite toujours par mépris. Il n'a jamais dit quelque chose de bien concernant l'hawa. L'hawa, c'est la passion. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Et dans ce verset, Allah méprise l'hawa. Il exprime l'hawa en tant que quelque chose qui détourne du droit chemin. Man ittakhadha ilahahu hawahu, celui qui considère, qui prend comme idole sa passion. Sa passion lui dit de faire ça, il fait ça et il laisse tomber ce qu'Allah a dit. Et c'est pour ça qu'on tue notre temps. C'est pour ça qu'on gaspille notre temps. On gaspille notre temps lorsque nous sommes devant des films qui ne nous servent à rien. On gaspille notre temps quand on est devant des matchs. À quoi ça sert de voir des gens jouer? Ça nous apporte quoi? Voir des gens jouer, de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Sinon, c'est un gaspillage de temps. Moi, je dis de temps en temps parce qu'on est jeune et on voudrait bien se distraire un petit peu. Mais il y a plein d'autres façons de se distraire sans regarder des matchs de foot. Et puis, ces gens-là qui sont en train de jouer, ils sont en train de gagner de l'argent. Eux, ils ne perdent pas leur temps. Ils gagnent de l'argent. Et un des compagnons a dit quelque chose de très important. Il a dit « Inni la amqutu rajul » Je déteste la personne qui ne sert, qui ne fait rien d'intéressant, ni dans le dunya, ni dans l'akhira. « Inni la amqutu rajul » La yakunu la fi hammi dunya, wa la fi hammi l'akhira. Il ne fait rien ni pour dunya ni pour l'akhira. Au moins, fais quelque chose pour dunya. Fais des études. Travaille. Fais quelque chose qui va te rapporter dans dunya et qui va rapporter à la société. Si tu ne fais pas ça, fais quelque chose qui va te rapporter dans l'au-delà. Mais rester sans rien faire, ni dans un domaine ni de l'autre, c'est perdre son temps. Et quand tu regardes la télé, surtout quand il y a du foot, tu es en train de perdre ton temps. Ou alors tu suis la passion. Et l'un dans l'autre, il n'y a rien de bien. Donc, ittiba'ul hawa est une des premières raisons qui font que nous perdons notre temps. Allah tabaraka wa ta'ala a averti certains de ses messagers contre le fait de suivre le hawa, de suivre la passion. Il a dit, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'i al-hawa. Ô Daoud, on a fait de toi quelqu'un qui juge entre les gens, sois juste et ne suis pas la passion. Parce que le fait de suivre la passion, ça détourne du droit chemin. Ça fait perdre du temps. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et Allah tabaraka wa ta'ala a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ça veut dire ne suis pas, n'écoute pas celui qui suit la passion. Celui qui suit la passion. Et quelqu'un qui suit la passion, c'est quelqu'un qui suit ce que lui dicte son esprit. Et vous savez que la personne ne peut atteindre le degré qu'Allah aime de la foi que lorsque la passion, elle suit ce que Allah aime. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Taba'an lima ji'tu bih. فالهوى يهوي بصاحبه الى الشر. الهوى, la passion, n'a jamais entraîné la personne qui l'a. La personne qui suit la passion, elle n'a jamais été entraînée vers le bien. Elle a toujours été entraînée vers le mal. Et الهوى, le résultat, c'est toujours quelque chose de pas bien. Il y a un hadith rapporté par Al-Bazzar, Al-Bayhaqi, Al-Hakim. Al-Hadith Hassan. C'est-à-dire que les différentes voies par lesquelles le hadith est parvenu lui donnent une force. Parce qu'il devient Hassan. Et le hadith, il a été rapporté par Anas ibn Malik. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun muhlikat » Il y a trois choses qui démolissent, qui anéantissent. Et il y a trois choses qui préservent, qui protège et qui sauve. C'est quoi ces trois choses qui anéantissent? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous les expose. Il a dit la première des choses qui anéantissent, la première des trois, c'est shuhun muta. Shuhun muta. C'est-à-dire une avarice appliquée. C'est-à-dire quelqu'un qui suit aveuglément l'avarice. Il ne lâche rien. Quand on lui demande de faire un petit effort pour ses frères, il ne fait aucun effort en suivant la passion. En pensant que son argent va diminuer quand il fait un petit effort pour aider les autres. Et pire encore, parce qu'il peut aller jusqu'à... Et c'est ça, shuhul muta, ça veut dire qu'il donne des ordres à celui qui l'applique. Il va voir les autres pour leur dire... C'est pas la peine de donner. Ces gens-là, on ne sait même pas ce qu'ils font avec l'argent. Waswas min ash-shaytan. Ça veut dire que Shaytan lui a en plus révélé qu'il faut pousser les autres à ne pas donner. Alladhina yabkhaluna wa yamuruna an-nasa bil-bukhl. Ce sont des gens qui eux sont avares, mais aussi ils poussent les autres à l'être. Ça, c'est une des choses qui anéantissent. La deuxième chose qui anéantit, hawan muttaba'an, al-hawa al-muttaba'. Al-hawa al-muttaba', ça veut dire la passion suivie, c'est-à-dire la passion à laquelle la personne obéit sans se poser de questions. Sa tête lui dit ça, oh, j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas envie. C'est suivre ses envies, ce que lui dictent ses envies. Il ne voit dans les ordres d'Allah aucune importance. Lui, c'est ce que lui dit son envie. J'ai envie de venir à la mosquée, je viens. J'ai pas envie. J'ai envie de me lever à Al-Fajr, je me lève. J'ai pas envie. C'est selon mes envies. Et là, je parle de ceux qui pratiquent la religion. Mais ceux qui la pratiquent pas, ceux-là, ils sont complètement dans l'hawa. Ceux-là, ils ont pris comme Dieu l'hawa. Et taba'a. Il a fait de sa passion son idole ou son dieu. La troisième des choses, donc on a dit la première c'est shuhun muta, la deuxième hawan muttaba. Shuhun muta, c'est-à-dire l'avarice. Hawan muttaba, c'est la passion. Et la troisième chose, i'jabul mar'i bi nafsi, lorsque la personne devient vaniteuse, elle se suffit d'elle-même. Je n'ai besoin de personne. Tout le monde est nul et moi je suis le meilleur. Personne ne sait rien, c'est moi qui sais. I'jabul mar'i bi nafsi, moi je suis le meilleur dans l'adoration. Les autres ils savent rien. Tout le monde ala al-batil et moi je suis ala al-haq. Ça, c'est i'jab al-mar'i bi nafsi. Al-ujb. Quand l'ujb atteint le cœur, il n'y a plus de médicaments. Quand la personne, tu lui parles d'Allah, il te dit, toi, tu connais rien sur Allah, c'est moi. Il n'y a plus de remède. C'est une des maladies qui, lorsqu'elle atteint le cœur, elle l'anéantit entièrement. Donc, ces trois choses-là, comme le prophète l'a cité dans ce hadith, thalathun muhlikat, anéantissent. Puis à la suite, il nous cite trois choses qui sauvent. Trois choses qui font tout gagner. Amma al-munjiyat, khashyatullahi, fi sirri wal-alan. Une des premières choses qui sauvent, c'est le fait de craindre Allah quand on est en public, et quand on est seul. Et ça, comme les savants le disent, c'est un grand signe de la sincérité. Si tu veux mesurer si tu es sincère ou tu ne l'es pas, washfik l'ikhlas ou l'amafiksh, c'est simple. Tu regardes ce que tu fais en public, est-ce que tu fais la même chose quand tu es tout seul? Tu te bases par exemple par rapport à la prière. Est-ce que la prière que tu fais à la mosquée avec une bonne concentration et tu restes 10 minutes, pour ne pas exagérer. Est-ce que tu fais la même chose quand tu te retrouves à la maison, tout seul, et tu fais ta prière? Est-ce que tu passes 10 minutes? Ou bien tu l'as fait en 5 minutes? Ou bien tu l'as fait en 3 minutes? Et tu termines pas de tahiyyat. Tu dis tahiyyat, salam alaikum. Pourquoi? Parce que quand tu es devant les gens, tu sens les regards. Et tu dis, en fait, la prière que tu fais, si tu ne la mets pas à la même hauteur que celle que tu fais quand tu es tout seul, ça veut dire que, quelque part, tu fais la prière, pas pour Allah. Parce que si tu la fais pour Allah, Allah, il t'observe à la mosquée, il t'observe aussi quand tu es tout seul. Et si tu es sincère avec Allah, il faut être pareil partout. Donc, un meilleur moyen, un très bon moyen pour savoir si on est sincère ou pas, c'est khashiyatullahi fi sirri wal alan. Et ça nous sauve. Ça sauve l'individu. En fait, ce qui sauve l'individu dans l'histoire, c'est l'ikhlas. Et au passage, je pourrais dire, juste à titre d'information, que on n'a pas le droit, nous, en tant qu'individu, de dire un tel, il a la sincérité, et un tel, il n'a pas la sincérité. Parce que souvent, on entend dans des mosquées, Hadak ma fesh ikhlas. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Il n'y a qu'Allah qui peut le savoir. Donc personne ne peut intervenir et nous dire, vous savez, un tel, il n'a pas d'ikhlas. Comment tu peux le savoir? Allah a empêché les anges de le savoir. Et toi, tu as réussi à le savoir? Comment tu as fait ça? C'est quelque chose qui est au fond des cœurs. Sirrun min asrarillah la yattali'u alayhi malak. Ça veut dire que c'est un secret qu'Allah a mis dans le cœur de chacun. Même les anges ne peuvent le découvrir. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Donc, la sincérité, personne ne peut dire que tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Et toi? Toi, tu peux savoir si tu es sincère ou pas. Si tu fais les choses pour Allah, tu es sincère. Si tu ne les fais pas pour Allah, ben, tu le sais aussi. C'est comme les bêtises que tu fais entre toi et toi-même. Le seul à les connaître, c'est Allah et toi. Tu peux les cacher à tout le monde, sauf à Allah et à toi. Donc la première chose qui sauve, comme le prophète nous l'a cité, khashiyatullahi fi sirri wal alan, le fait de craindre Dieu, être sincère avec Allah, quand on est en public et quand on se retrouve tout seul. La deuxième chose, al-qasdu fi al-faqri wal-ghina. Al-qasd, ça veut dire l'économie. Ça veut dire la bonne gestion. Al-qasdu fi al-faqri wal-ghina, ça veut dire que quand on est pauvre ou quand on est riche, peu importe, on doit quand même savoir gérer. Ça sauve. Et le prophète, quand il nous parle, en fait, le prophète, comme vous le savez, il a jawami al-kalim. Ça veut dire qu'il a ses paroles, ce sont des sagesses. Et lorsqu'il nous parle comme ça, il nous regroupe le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Et là, quand il nous parle de l'qasd fi al-faqri wal-ghina, il désigne, par cette phrase-là, il désigne les choses de la vie. Ça veut dire que si tu te retrouves dans la vie, si tu respectes ce principe d'être, de bien savoir gérer et d'être économique, que tu sois riche ou pauvre, tu seras parmi les sauvés. La troisième chose, al-adlu fi al-ghadab wal-rida. Al-adl fi al-ghadab wal-rida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être juste, qu'on soit mécontent ou content. N'importe quelle condition, qu'on soit bien ou pas bien, il faut être juste. Parce que l'individu a souvent tendance à être injuste lorsque il n'est pas heureux, lorsqu'il est en colère. Eh bien, une des très bonnes qualités, des qualités qui sauvent, c'est être juste, qu'on soit content ou pas content. Al-adlu fi al-ghadab wal-rida. Donc on revient à notre sujet. Il faut savoir que l'être humain est un ensemble de jours. La vie de l'être humain, c'est un ensemble de jours. Et chaque jour qui diminue, il s'enlève de son capital. La deuxième, on a cité tout à l'heure le premier empêchement, la chose qui nous empêche de respecter notre temps et de le fructifier. Et là, la deuxième chose, c'est tolul amal. Tolul amal, on pourrait le traduire par l'ambition. Mais l'ambition, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Parce qu'il faut avoir de l'ambition, il faut être ambitieux dans la vie. Seulement, cette ambition, il faut qu'elle ait des limites. Il faut pas qu'on ait cette ambition infinie. Je vais faire, je vais faire, je vais faire, et en même temps on bouge pas. C'est que un jour je vais faire la prière, un jour je vais faire sadaqa, inshallah je vais faire le hajj, inshallah je vais faire, inshallah je vais faire. Et Shaitan, il te donne toujours la possibilité de programmer, mais tu ne fais jamais rien. En fait, il faut être dans l'action, il faut être dans l'action, et en même temps avoir l'ambition. Ce genre d'ambition, c'est apprécié par l'islam. Mais cette ambition vide, l'ambition de « je vais faire, je vais faire, je vais faire, mais on fait rien », Ça, c'est très méprisé par l'islam. Tolul amal. Tolul amal. L'amal, il faut l'avoir. L'amal, c'est l'ambition. Mais tolul amal, c'est-à-dire cette prolongation de l'ambition, avoir toujours, vouloir toujours en faire et ne rien faire, c'est ça qui n'est pas apprécié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu contre ce genre d'attitude, ce genre de pensée, de « je vais faire, je vais faire ». Il a dit dans un hadith sahih qui se trouve dans le Bukhari, qui a été rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu, nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « kun fid dunya ka annaka gharib ou abir sabil ». Ça veut dire « soit dans cette vie, dans ce bas monde, comme un étranger ou quelqu'un qui est en voyage. » Parce que pourquoi cette comparaison à quelqu'un d'étranger et à quelqu'un en voyage? Parce que ces deux catégories de personnes ont une seule pensée, c'est de revenir le plus rapidement chez eux. Quelqu'un qui est à l'étranger, je parle pas de nous sommes à l'étranger, mais en fait on n'a jamais pensé à retourner chez nous. Je parle surtout pour les plus matures, parce que les jeunes ici c'est chez eux. Ils peuvent pas dire on va retourner chez eux, mais pour les plus anciens, eux ils ont dit à un certain moment, ils disaient à chaque fois on va retourner chez nous, on va retourner chez nous. Ils ont toujours cette pensée là hein, quand vous parlez à nos prédécesseurs, quand vous leur parlez, ils vous disent toujours Inch'Allah, je vais au bled, mais en fait ils sont toujours là. Donc c'est pas un mal en soi, mais cette comparaison du prophète, c'est parce que effectivement, quand on à l'état normal, quand quelqu'un se trouve à l'étranger, la première chose qui l'intéresse, c'est retourner le plus rapidement chez lui. Et le prophète nous compare la vie qu'on doit mener comme quelqu'un qui est en voyage et comme quelqu'un qui est à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous, on doit toujours penser au retour chez Allah. On doit toujours penser au retour chez Allah. Et quelqu'un qui pense au retour chez Allah le plus rapidement possible, il perd pas son temps. Il va pas perdre son temps à tuer le temps, comme on dit, ou à gaspiller son temps. Il doit profiter du peu de temps qu'il a pour en gagner le maximum et mettre là-bas. C'est comme si qu'on vous envoie, certains de nos prédécesseurs l'ont fait, on les a envoyés de leur pays, on leur a dit quand vous allez en France, votre but, c'est uniquement de ramener le maximum d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas perdu une seconde. Ils se sont adonnés au travail, toutes sortes de travail, ils ne refusent rien. Le but, c'était de ramasser le maximum d'argent et l'envoyer là-bas pour retourner après. Nous devons procéder de la même manière, mais avec l'akhira. Nous sommes dans ce bas monde pour très peu de temps, vraiment très peu de temps. Ceux parmi nous qui ont la trentaine, ils savent très bien que si dans 30 ans ils sont encore là, c'est une grâce de Dieu. Dans 30 ans, vous imaginez, ça passe très vite. Moi, je vous assure, je me suis même pas rendu compte quand est-ce que l'année 2010 est passée. J'arrive même pas à comprendre qu'on est déjà le 25 décembre 2010. J'ai pas vu l'année 2010. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression que c'est hier. Je me rappelle, c'était le frère Hassan Iriosen qui était chez nous il y a une année. Il y a une année, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Il y a une année, il est venu nous faire une conférence du côté de Lens. Et il nous a parlé, il nous a, de toute façon, avec Hassan Iriosen, on est toujours fortifiés en foi. Et là, quand je pense à la chose, je trouve que ça fait pas longtemps que je l'ai vu. Ça fait pas longtemps qu'il nous a fait cette conférence, alors que ça fait pourtant une année. C'était la fin 2009. Et là, on est à la fin 2010. Vous verrez que dans un an, et ça passe tellement vite, et ça fait partie des signes de la fin du monde, comme le prophète l'a prédit. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que vers la fin du monde, le jour devient comme une heure. Le jour devient une heure. Yasiru an-naharu sa'a. Sa'a, comme une heure, un moment de la journée. Et la semaine devient comme une journée. Et le mois devient comme une semaine. Et l'année devient comme un mois. Et je peux vous dire qu'on y est presque. On y est presque. Ça passe tellement vite. Donc il ne faut pas perdre de temps. Il faut savoir que dans quelques années, nous ne serons plus de ce monde. Il faut avoir préparé quelque chose de l'autre côté. L'horloge est en train de... au-dessus de notre tête. Donc il ne faut pas croire que... أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Il ne faut pas croire qu'Allah nous a fait comme ça. Chacun a une date bien déterminée, bien précise, à laquelle il doit quitter ce monde. Tout le monde, y compris ceux qui n'y croient pas. Ça fait partie de la justice d'Allah. Même ceux qui n'y croient pas, ils vont quand même partir. Il disait également, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et ça c'est ses paroles à lui, c'est pas les paroles du prophète, il dit, إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَى وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَحْ. Ça veut dire, lorsque tu arrives à être en vie, lorsque tu observes que tu es en vie le soir, il ne faut pas te donner confiance que tu vas rester jusqu'au lendemain. Parce qu'il se trouve, il se pourrait que le lendemain, on n'arrive plus à te réveiller. Et combien de gens on connaît, ils ont dormi le soir et le matin, on n'arrivait pas à les réveiller. Allah nous l'a cité dans le Coran tout ça. Il nous a cité comment ça se passe. Il nous a dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha. C'est Allah qui accueille les âmes lorsqu'elles meurent. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ça veut dire que lorsque la personne dort, les savants appellent le sommeil la petite mort. La petite mort, elle monte au sarir. Ça veut dire que quand on est en train de dormir, on ne voit pas, on entend à peine et on ne contrôle rien. On n'est pas présent, on est mort quelque part, mais on respire encore. Et cette respiration, elle est maintenue par la volonté d'Allah pour permettre à certains organes de pouvoir continuer de vivre. Contrairement aux morts, le mort, celui qui est mort, la grande mort, même la respiration, elle n'y est plus. Et donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, au matin, certains vont se réveiller parce que cette âme qui a quitté leur corps en partie et qui est restée liée quand même à ce corps, comme les savants le décrivent, ils disent que il y a un fil qui relie le corps à son âme, même quand elle le quitte pendant le sommeil. Et lorsque Allah veut redonner la vie le lendemain à cette personne, il lui renvoie son âme et la personne revit. Quand on la réveille, elle est réveillée. Par contre, la personne pour qui Allah veut la fin, il garde l'âme et il coupe le fil. Et c'est tout, la personne, on vient la réveiller au matin. Il ne s'est pas réveillé. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Donc il faut savoir que nous sommes plus proches de la mort que jamais. Donc le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas perdre. Ensuite, donc pour traduire ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, lorsque tu te retrouves au soir, n'attends pas d'avoir le lendemain, parce que tu sais pas, peut-être que tu partiras dans la nuit. Et lorsque tu te réveilles le jour, ne crois pas, peut-être que tu partiras dans la journée. Donc il faut être en perpétuel contrôle. Il faut se dire à chaque fois, je sais pas quand est-ce que je vais quitter, il faut être prêt tout le temps. Il faut être préparé au départ. Dès qu'on te dit « Bismillah », tu prends le chemin. Il faut être préparé tout le temps. Et être préparé tout le temps, c'est comment ? Il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a dit, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'a. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste de rencontrer Allah, Allah n'aime pas le rencontrer. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce hadith du prophète, elle lui a dit, oh prophète, c'est pas la mort. Il n'y a personne d'entre nous qui aime la mort. El maut, kulluna yakrahu el maut. Il n'y a personne qui te dit, moi j'aime bien la mort. Ce ne serait pas normal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Laysa hadha ya Aïcha. Ça n'est pas cela. Ça n'est pas comme tu l'as compris. Il y a des gens, Allah yubashiruhum. Il leur annonce ce qui les attend au paradis. Il leur annonce la miséricorde d'Allah. Il leur annonce l'agrément d'Allah. Et ils aiment, lorsqu'ils entendent ces annonces, ils aiment rencontrer Allah. Et Allah aime leur rencontre. Ça, ce sont les gens qui ont la foi, les gens qui sont dans le droit chemin, les gens qui font le bien. Par contre, les gens qui ne sont pas dans le bien, ils entendent ce qui les attend chez Allah. Le châtiment, le mépris d'Allah, l'azab. Lorsqu'ils entendent ça, quand tu lui parles de la mort, A'udoubillah, pourquoi tu nous parles de la mort? Franchement, il n'y a pas d'autre sujet. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rencontrer Allah, parce qu'il sait ce qu'il attend. Et c'est ceux-là qui sont dits dans le hadith, « وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ » Ces gens-là qui sont comme ça parce qu'ils ont fait le mal, ils n'ont pas envie de rencontrer Dieu parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre des comptes. Donc, ils s'éloignent. Et Allah, par conséquent, les méprise et les déteste parce qu'il n'aime pas sa rencontre. Lui non plus ne veut pas les rencontrer. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans le Coran, « Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun. » Laisse-les profiter et manger et être pervertis par la passion jusqu'à ce qu'ils sauront ce qui va leur arriver. Fasawfa ya'lamun. Et le Qurtubi dans son tafsir a dit que la signification de dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amal, c'est-à-dire le verset qu'on vient de décrire, il a dit dharhum, laisse-les perverti par l'amal an ta'atillah, c'est-à-dire le temps qu'il gaspille en dehors de ce que Allah aime. Tous ceux qui perdent du temps dans ce qu'Allah n'aime pas seront concernés par ce verset. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun. Et la troisième chose qui nous empêche de profiter de notre temps, donc on a dit la première, c'est tiba'ul hawa, suivre la passion. La deuxième, c'est la prolongation de l'ambition. Et la troisième chose, c'est al-farar. Al-farar. Comment on peut dire al-farar en français? L'oisiveté. Al-farar. Une fois, il y a quelqu'un qui me raconte, il m'a dit qu'il était en attente de rentrer chez le médecin. Vous savez, la petite salle d'attente. Il était là, il est arrivé, il a trouvé deux personnes devant lui. Et puis, ces personnes, vous savez, souvent, vous trouvez des petites revues, pas très enchantantes d'ailleurs, chez le médecin. Et chacun a pris une revue. Il a déposé la revue, il a repris une deuxième, après la troisième, la quatrième. En fait, on attend de passer chez le médecin. Il a passé en vue toutes les revues. Et lui, c'est un musulman, donc il était là en train d'observer. Il a dit, le fait, le temps que j'ai passé à attendre pour rentrer chez le médecin, ça m'a paru long. Très long, pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai pas supporté me retrouver seul. Quelque part, j'ai pas supporté me retrouver avec mon Créateur. La personne, lorsqu'elle se retrouve seule, elle ne supporte pas. Elle préfère se retrouver avec des gens. Parce que lorsqu'elle est toute seule, elle a du mal à supporter de se retrouver avec Allah. Il a dit à ce moment-là, je pouvais faire dhikr, je pouvais faire l'estighfar, je pouvais faire plein de... J'avais l'occasion de me rapprocher de mon Créateur parce qu'il était seul avec moi. Mais ce jour-là, j'ai passé en vue toutes les revues. Ça n'a pas suffi et je suis resté comme ça à tourner les pouces. Donc, nous, on a plus le temps, on ne profite pas du temps qu'Allah nous attribue pour être avec lui. La prière, pourquoi à votre avis on la fait rapidement? On ne prend pas son temps. Parce qu'on en a marre. On n'a pas le temps. On n'a pas de temps à consacrer à Dieu. La prière, il faut que je la fasse le plus rapidement possible. Comme ça, je m'en débarrasse. Il faut que je me débarrasse le plus rapidement possible de la prière pour être tranquille. Pour faire quoi? En fait, vous avez remarqué, peut-être que ça ne se passe pas chez vous, mais chez nous, là-bas, dans le Pas-de-Calais, c'est pas très loin, hein, dans le Pas-de-Calais, on a des personnes qui sont retraitées, qui n'ont plus rien à faire. Et quand vous leur dites d'attendre l'Isha, l'Isha, par exemple, en ce moment, il est à 18h30 ou quelque chose comme ça, en tout cas entre 18 et 19h. Quand on leur dit, bon, pour permettre à tout le monde de se rassembler, on va reculer, on va retarder l'Isha jusqu'à 19h, vous avez des gens qui nous font un scandale. Pourquoi ? Pourquoi on va retarder l'Isha ? Et quand, vous savez, dès qu'ils terminent la prière de l'Isha à 18h30, ils s'en vont où ? Devant le Jazira. Et ils restent pendant 8 heures devant le Jazira, ça ne le dérange pas. Par contre, attendre, alors que l'Ajr Yuktab, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Intidharu salati ba'da salat » Tout ça, ça s'écrit, ça reste dans Sahifa. Et le jour du jugement, vous allez le retrouver. Et lorsque la personne attend la prière, Allah lui écrit comme s'il était en prière. Eux, ils ne veulent pas ça. Enfin, je dis eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Le manque de savoir. Ma'arfinch. Et quand la personne ne connaît pas une chose, il ne lui donne aucune importance. Quelqu'un qui a une bombe dans les mains, et qui joue, et qui croit que c'est un ballon, et il joue avec, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est une bombe. Mais dites-lui, hey, c'est une bombe. Vous croyez qu'il va jouer avec encore au ballon? Donc nous, notre problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne connaît pas ce qu'on a entre les mains. On ne sait pas ce que c'est que la prière. Il y en a certains, tu lui dis, écoute, tu sais la prière? Avec la prière, il y a plein de choses. Tu peux ouvrir le khaza'inullah. Comment on dit khaza'inullah? Les trésors de Dieu. On peut ouvrir les trésors de Dieu avec la prière. Regardez quand, par exemple, il y a la sécheresse quelque part dans le monde et qu'il y a des musulmans. Ils vont avec deux rak'at faire tomber la pluie. Quand vous dites ça à un mécréant ici, la prière, quel rapport entre le temps, entre la prière et puis les phénomènes météorologiques. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a une relation. El-Ibada, en fait, le cosmos a une relation étroite avec l'adoration. Ce qui permet, ce qui laisse ce monde tel qu'il est, c'est le fait qu'il y a encore des gens qui font l'adoration. Le jour où il n'y aura plus d'adoration, Allah va tout anéantir. Il n'en a plus besoin. De toute façon, Allah n'a jamais de besoin. C'est les créatures qui ont besoin d'Allah. Donc la prière, c'est quelque chose d'important. Mais nous, on ne lui consacre pas de temps. On préfère donner le temps au foot. Regardez un match, combien ça dure? 90 minutes, quand il n'y a pas de prolongation. Ça dure 90 minutes. On attend les 90 minutes. Et s'il y a des prolongations, on est là. Même s'il y a le travail. Vous imaginez, il y a des gens qui n'ont pas été au travail parce qu'il y avait un match important. Si? Wallahi al-azim. Il y a des gens, ils ont été faire arrêt maladie parce que il y avait le match et le match était important et en plus il y avait des prolongations. Donc il a raté le travail pour rester devant le match. Il fera jamais ça pour la prière. Au contraire, la prière, il va laisser tomber parce qu'il y a le travail. Et il y a, parce qu'il y a le match. Il y en a qui ont honte de se montrer en musulman. Les gens qui ont le batil, ils le manifestent en public, ça ne les dérange pas. Vous savez, un garçon avec une fille qui lui est même pas halal, il traîne avec dans la rue, il fait ce qu'il veut avec dans la rue. Ça ne le dérange pas. Et pourtant, halal le batil. Un musulman, quand c'est l'heure de la prière, il n'ose pas faire la prière devant tout le monde. Il va aller là-bas, se cacher sous l'escalier. Ou là. Ça, c'est pour celui qui fait la prière. Et mais il y en a un, il dit, je ne la fais pas jusqu'à la maison. Parce qu'il n'ose pas montrer devant tout le monde que la prière. El izzah dial islam ma andnach. On n'a pas cette fierté d'être musulman. Pourquoi? Pourtant, il est en train de faire le mal. Il s'en fout. Devant toi, il prend la fille. Il attend que tu arrives devant lui. Il fait ce qu'il veut faire. Pour te provoquer. Surtout si tu vois avec une barbe, avec l'imama ou avec le fouqiyah. Et toi, tu peux pas venir quand c'est l'heure de la prière. D'accord, on t'a pas dit de te mettre en plein centre de la ville. Hein. D'aller à côté de la mairie puis de mettre ton tapis. Non, on ne va pas jusque là. Mais au moins, mets-toi à un endroit convenable, etc. et fais ta prière. Il faut que ces gens-là prennent l'habitude de nous voir faire la prière. Il ne faut pas qu'ils croient que nous, notre prière, c'est seulement la mosquée. Le prophète, il a dit « Ju'ilat li al-ardo masjidan wa tahura » Toute la terre m'a été attribuée comme moyen de faire les ablutions secs et un endroit pour faire la prière. Toute la terre. Il n'y a pas un endroit spécifique. Il n'y a pas que dans les mosquées qu'on fait la prière. Quand on est musulman, nous, c'est pas comme les non-musulmans ou les chrétiens qui, eux, ne font leur culte que dans les églises. Nous, c'est partout. Et il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut que ces gens-là nous voient. Comme ça, ça devient une habitude chez eux. Comme ils ont pris maintenant l'habitude de nous voir en khamis. Je dis pas qu'il faut s'habiller tout le temps en khamis. Mais il faut quand même le faire. Comme ça, les gens, ils disent, bon, c'est normal. Parce qu'on a l'impression, dans certains coins de la France, que lorsque la personne va en khamis dans la rue, avec les regards qui lui tombent dessus, on a l'impression qu'il a commis un péché. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas y aller en khamis, parce que tous les regards, ils sont là, ils ont l'impression de voir un martien. Non, pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas donné cette habitude. Par contre, eux, chez nous, il y en a, ils seraient prêts à venir. Moi, par exemple, je connais certaines mosquées à Paris. Il y a des journées ouvertes où tout le monde peut venir, même les mécréants. Eh bien, ces mosquées-là, les gens, ils viennent avec les Bermudas et les shorts, et ils rentrent. Eux, ils nous ont habitués à ça. Nous, on n'y voit même pas de mal. Alors, n'en parlons même pas chez nous, là-bas, dans les pays. Dans les pays, quand les non-musulmans viennent chez nous en décolleté et en mâché Bermuda, Micromida, eh bien, quand ils viennent avec ça, on trouve ça normal. On les regarde même pas bizarrement. Tout est normal. Bon, c'est hadouk. Ça pose aucun problème. Alors qu'en réalité, hada munkar. On ne devrait pas l'accepter. Ouais, mais on est intolérant, nous. On est intolérant. Avec notre hijab, on est intolérant. Avec notre fouqiyah, on est intolérant. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut, mais il ne faut pas qu'il s'habille comme nous, on ne veut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on est dans un pays de liberté, nous sommes libres, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas que cette liberté dépasse ce qu'on n'aime pas. Même si ça fait partie... Par contre, ailleurs, on peut faire ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas avoir honte de déclarer que nous sommes musulmans. Et on doit se distinguer. On doit se distinguer des autres. Sinon, si tu fusionnes avec tout le monde et tu fais comme si de rien n'était, tu te démarques pas, ça veut dire que tu fonds. Ça veut dire que tu perds ton identité. Tu perds ton islamité. Tu perds ton temps. Et notre temps, c'est très cher. Notre temps, c'est important. Les conditions avec lesquelles nous pouvons rester, parce que nous sommes, et là je parle aux musulmans, nous sommes une minorité dans une société qui n'est pas musulmane, il faut l'admettre ça, c'est une réalité. Nous ne sommes pas la majorité. On est une minorité, et cette minorité doit respecter certaines conditions pour vivre dans une telle société. Vous savez, il y avait autrefois un avis partagé entre les savants. Est-ce qu'on a le droit de rester ou on n'a pas le droit de rester? Ça veut dire que même le français qui embrasse l'islam, il devait quitter. Il y en a qui disent ce genre de... Ça s'appelle l'hijra. Vous avez déjà entendu parler de l'hijra. Les avis sont partagés là-dessus. Certains disent il faut l'hijra, il faut quitter ce bled, parce qu'il y a machin, il y a les... c'est pas un pays où on peut pratiquer sa religion. D'autres, ils disent que c'est un endroit où on peut pratiquer sa religion. Bon, les avis sont partagés. En tout cas, sachez-le que les raisons qui poussent à l'hijra ne sont pas seulement des raisons religieuses. C'est aussi des raisons naturelles. Par exemple, parfois, vous avez des catastrophes naturelles dans certains pays. Eh bien, ces gens-là doivent quitter leur pays pour aller s'abriter ailleurs. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes une minorité musulmane dans une société qui ne l'est pas. Donc, nous avons des conditions que nous devons respecter. Si on veut se donner le droit de rester ici. La première condition, c'est qu'il faut qu'on garde notre foi. Il ne faut pas qu'on perde la foi. Et il faut qu'on fasse le maximum pour ne pas justement laisser les générations qui nous suivent perdre cette foi. Et là, j'attire l'attention sur le temps qu'il faut consacrer à nos enfants. Il faut leur consacrer du temps. Le temps là qu'on doit gérer, il faut qu'on leur consacre du temps pour leur expliquer tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour d'eux. Dernièrement, j'ai entendu un enfant qui est venu me dire, la maîtresse, elle nous a dit que Noël, comment il s'appelle ? Le Père Noël va venir à la maison avec les cadeaux. Eh bien, si cet enfant ne trouve pas devant lui quelqu'un qui est capable de lui consacrer du temps et de lui expliquer ce qu'il en est, il va grandir avec cette idée dans la tête que c'est le Père Noël qui va descendre par la cheminée avec les cadeaux et tout ça. Donc, il faut qu'on donne du temps à nos enfants pour leur expliquer tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est pas la peine d'être toujours dans la défensive. Écoute, tout ça, c'est pas vrai. Il y a d'autres manières de lui dire. Il y a d'autres manières de lui expliquer. Et surtout d'éveiller, de réveiller ses sens. Lui expliquer. Est-ce que tu penses que si le Père Noël descend par la cheminée, il va être encore blanc et rouge? C'est sûr, s'il descend par la cheminée, surtout notre cheminée à nous. Parce que le ramonage, il passe pas tout le temps. Donc déjà, il va pas être rouge et blanc. Et en plus, c'est tellement étroit que si jamais il est un petit peu... Voilà, en fait, c'est avec... En essayant de réveiller les sens, l'enfant va comprendre. Donner du temps à nos filles. On a des filles. On entend beaucoup de catastrophes dans les familles. Les filles se barrent des maisons. Pourquoi? Parce qu'on leur donne pas assez le temps. On leur donne pas un temps de parole. Chez nous, c'est le comment on appelle le libre arbitre? Pas le libre arbitre, je me rappelle plus du mot. Quand quelqu'un a des tendances dictatoriales, on dit c'est le... Non, le... Ça c'est trop fort. C'est quelqu'un de dictateur chez lui. On dit qu'il est... Ouais, il est autoritaire. Arbitraire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc l'arbitraire, il faut pas l'appliquer à la maison. L'arbitraire, voilà, je t'ai dit de faire ça et c'est tout. Cherche pas à comprendre. Non, je t'ai dit de faire ça et voilà, je t'explique pourquoi. Ou bien je t'explique d'abord et après de toi-même tu vas le faire. Pas d'arbitraire. Les filles ont besoin d'écoute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit pour les filles. Et la personne qui leur donne du temps, il a dit que la personne qui donne du temps à ses filles, à sa fille ou à ses filles, Allah va utiliser ces filles-là pour le protéger de l'enfer. Vous vous rendez compte? C'est une grande... Ça, il ne l'a pas dit pour les garçons. Mais il l'a dit pour les filles. Il a dit, من كانت له جارية فأحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. C'est quelque chose d'énorme. Celui qui a une fille et qui en a pris soin et qui l'a bien éduquée jusqu'à ce qu'il l'a mariée, Allah va faire en sorte qu'elle soit une protection entre lui et le feu le jour du jugement. Et un compagnon lui a dit, même s'il y en a deux, il lui a dit même s'il y en a deux. Je ne sais pas si c'est le hadith, il est dans ce sens-là ou bien dans l'autre sens. Dans l'autre sens, en fait, il a commencé par plusieurs, et puis le compagnon lui a dit, et s'il y en a deux, il lui a dit même s'il y en a deux. Il a dit, s'il y en a une, il lui a dit même s'il y en a une. Non?
Juste, c'est Mohamed. Dans le contexte du temps, donc, il y a les frères qui nous disent que dans 10 minutes, Inch'Allah, ils vont servir le repas.
Ah, d'accord. Donc, il faut qu'on gagne du temps.
Voilà, il faut qu'on gagne du temps.
Barakallah.
Mohim, on a encore 10 minutes pour te prévenir et on va supprimer la partie débat, interaction avec les frères.
Je suis prêt à m'arrêter. À m'arrêter parce que je sais que je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai rien à dire, je veux dire. Ce que vous décidez, moi je m'y soumets.
Non, machallah, c'est ce que tu as dit là depuis le début. Personnellement, moi ça c'est rare. Il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Pour preuve, j'arrive pas à retenir tout ce que tu as dit. Et pourtant, j'essaye de me rappeler un peu parce qu'il y avait pas mal de choses. On se met en fait dans la situation. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on revit quand tu as parlé depuis le début. Et Mohim, moi j'aimerais bien que tu continues, personnellement.
Barakallahu fikoum. Mais bon, Inch'Allah, on va essayer de ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Essayer d'être sur le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsque certains ont dit à un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il leur donnait des conseils, ils lui ont dit, si tu faisais ça tout le temps, il leur a dit, non, je ne vais pas vous le faire tout le temps parce que vous allez en avoir marre. Et donc moi aussi, je vais m'arrêter là parce que vous allez être lassés et vous allez en avoir marre. Et comme ça, il reste chez vous cette volonté d'en savoir plus. J'espère que vous n'en avez pas eu marre à m'écouter et à vous répéter la même chose. Parce que finalement, ce sont des choses que vous connaissez. Je ne vous ai rien appris de plus. Et puis comme le prophète sallam l'a dit, « وَرُبَّ حَامِلُ عِلْمٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ » Ça veut dire que peut-être que moi, je ne fais que vous véhiculer les hadiths du prophète et puis les versets coraniques, mais vous savez les analyser bien mieux que moi et bien vous en connaissez le sens bien plus que moi. Et de toute façon, ce que vous avez entendu de bien, ça vient uniquement d'Allah, et ce que vous avez entendu comme aberration, comme bêtise et tout ça, ça vient de moi et de mes péchés. Je vous demande de me pardonner si vous avez trouvé que j'étais long, que vous avez trouvé que mes propos sont déplacés, si vous avez trouvé que j'étais hors sujet, parce que bon, tout ça, on s'en rend pas compte et on est parfois sous l'effet de il y a un petit stress quand même, et puis voilà, parfois on est poussé à dire les choses comme ça, comme elles viennent. Donc peut-être il y a aussi le manque de structure dans ce que j'ai dit et tout ça, mais je vous demande de كما كيقولوا عندنا احنا في البلاد ديروا عين ميكا وسل بارك الله فيكم جزاكم ديروا عين ميكا il faut utiliser un œil de plastique, ça c'est la traduction littérale. بارك الله فيكم et puis سمحوا لينا على كل حال اخا
بارك الله فيك mon frère
Rafik.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? On intervient que sur le sujet, hein, sur au niveau du temps. Est-ce qu'il y a des frères qui ont des questions à poser sur ce qui a été dit, des frères ou des sœurs?
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd, nukhbiruk kaynin ba'd l'oulad ou bnat qa'oud يشوفوا في التيلي من الصباح إلى الليل ولم يصلون حتى إلى العشاء ويجملوا كل شيء ويجمعوا كل شيء وإلى النهار وإلى ز شنو هذا هذاك وإلى ويجملوا كل شيء ما مفهمش واحد الكلمة هنا ما هم يقرأوا وهم خدامة أم أه؟ وأما صلاتهم مقبولة هل أم لا والسلام d'accord. Ils restent devant la télé toute la journée, du matin au soir. Et quand ils font la prière, en fait, ils la font regrouper tout au soir. C'est bien, c'est bien. Oui, j'ai compris à peu près ce que le monsieur veut me dire.
Sinon, on va pas le lire.
Oui, d'accord. Mais bon, j'ai compris. Donc en fait, c'est des garçons et des filles qui passent leur temps devant la télé, du matin au soir. Je ne sais pas comment ils font, ça c'est certainement pendant les vacances. Et puis la prière, quand ils font tout au soir, ils regroupent tout au soir. Et malgré ça, enfin je veux dire malgré tout, ils ne vont ni à l'école, ni au travail. Et ils demandent est-ce que leur prière est acceptée ou pas. Ensuite, le madrasa, donc, par contre, quand il s'agit d'aller à l'école, ils se réveillent au matin et ça ne leur pose pas de problème. D'accord. Ben, je pense que là, la réponse se trouve dans la question. Ces garçons et ces filles, si ils avaient la notion de l'importance de la prière, et s'ils avaient également l'importance du temps, je pense qu'il ne passerait pas une seconde devant la télé. De toute façon, il faut que vous sachiez une chose. Une chose qui relève de la vie de Siba, c'est qu'il y a un sondage, il y a plutôt une statistique qui a été faite, et on a trouvé que les familles qui ont un niveau élevé, au niveau intellectuel, je parle, donc qui ont un certain niveau, et qui sont bien avancés dans la vie et qui font des bonnes études et tout ça, en général, ces familles-là, quand vous tournez dans leur maison, vous ne trouvez pas beaucoup de télé. Ou alors, vous trouvez une télé, vous la trouvez, ils savent, quand vous posez la question à l'intérieur de la maison, ils vous disent, oh, peut-être je l'avais vue là-bas. En fait, ils ne savent même pas où se trouve la télé, quand il y a une télé, parce que généralement, ils n'ont pas de télé. Par contre, ils ont fait le sondage, ils ont trouvé que les télés se trouvent dans chaque pièce, chez les familles de niveau très bas. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas comme habitude la lecture, qui ne sont pas ouverts d'esprit, ils passent leur temps devant la télé. Ça veut dire que la télé, et ça je pense que vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, c'est un instrument pour jouer avec les esprits des faibles. Donc il ne faut pas rester devant. Il faut transmettre ce genre de notion à nos enfants pour qu'ils comprennent que la télé, c'est une grosse perte de temps. On perd notre temps quand on regarde la télé. Les gens intelligents, ils ne regardent jamais la télé. Quand vous allez, par exemple, parmi les gens qui sont cultivés, les gens qui, vous savez, qui ont un certain niveau dans la vie, vous ne trouverez pas beaucoup de télé chez eux. Vous ne trouvez pas du tout la télé. Ils ne parlent jamais de la télé. Et la plupart d'entre eux, ils disent, moi, je regarde jamais la télé. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu la télé. Par contre, chez les familles modestes, je parle pas modestes financièrement, mais modestes au niveau d'esprit et moins élevé, l'intellect moins élevé, bah, vous trouvez beaucoup de télé, une télé dans chaque pièce. Pourquoi ? Parce qu'on donne de l'importance à la télé. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Parce qu'on tue le temps. On consacre pas son temps aux livres, on consacre pas son temps à des débats, on consacre pas son temps à des choses intéressantes. Donc c'est pour cette raison qu'il faut, dans un premier temps, parce que ça c'est un problème, donc il faut soigner ce problème, il faut le résoudre. Comment le résoudre ? C'est en parlant à ses enfants, en essayant de leur montrer, de leur expliquer l'importance du temps, leur expliquer que le fait de rester devant la télé, ça rend bête. Ça rend complètement inculte, et que il faut s'ouvrir, il faut lire, il faut explorer d'autres voies que la télé. La télé, il n'y a rien. Il y a de temps en temps quelques débats qu'on peut trouver intéressants, et encore. Donc, il ne faut pas donner tout son temps à la télé et également, parallèlement, expliquer aussi l'importance de la prière. Si ces enfants-là avaient dans leur cœur l'importance de la prière, ils ne la laisseraient pas tomber. Ils ne la laisseraient pas en second plan. Donc, c'est notre rôle à nous. Ce n'est pas la faute des enfants. C'est notre rôle à nous. Si nous, nous avions accompli notre rôle bien comme il faut, les enfants ne seraient pas comme ça. Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là. Et vous verrez que si nous avions pris nos responsabilités à bras-le-corps, les enfants ne resteraient pas devant les télés. Wallahu a'lam. Cela dit, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas quelque chose de bien. Laisser tomber la prière pendant toute une journée à cause de la télé, ça veut dire qu'Allah, c'est quand on a le temps, quoi. Allah, c'est au soir quand on n'a plus rien à faire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui.
Alaykoum salam. Wa fiikoum. Est-ce qu'il y a un inconvénient à regarder un film? Ouais, c'est vrai qu'on peut pas tout, on peut pas dire que tout est mauvais. C'est pour ça que la télé, on n'a pas dit qu'il faut pas la regarder du tout. On a dit qu'il faut pas regarder les choses qui sont pas intéressantes. Et il faut, de temps en temps, ils font des choses qui peuvent rentrer dans le contexte intéressant. Et ben à ce moment-là, on peut regarder. On peut regarder des documentaires, des historiques, des choses qui apportent quelque chose. Et même parmi les films, par exemple, certains films peuvent apporter quelque chose de positif. Bon, moi, je ne suis pas trop film. Il n'y a pas beaucoup de films, moi, qui m'ont rapporté des choses. Maintenant, bon, s'il y a des films, parce que moi, j'ai pas tout vu, s'il y a des films que vous avez vus et que vous trouvez qu'on peut les ranger dans la rubrique intéressant, ben, moi, je n'ai rien contre, hein. De toute façon, la télé, c'est un instrument. Il faut le savoir. C'est un instrument. C'est son utilisation, c'est fonction de ce que ça diffuse, en fait. C'est, si ça donne quelque chose de bien, on regarde. Par exemple, moi, j'ai plus tendance à regarder les télés étrangères, les télés des pays où on peut diffuser des trucs sur la religion. Vous voyez, par exemple, moi, je préfère regarder Iqra. Je préfère regarder, je sais pas, il y a d'autres chaînes religieuses sur lesquelles on apprend des choses. Il y a aussi des chaînes qui ne sont pas forcément religieuses. Mais il y a des chaînes où il y a des choses intéressantes. Donc on peut regarder. Mais passer son temps devant, je sais pas comment ils appellent ça, Big Deal, un truc comme ça. Attendez, on a quand même un cerveau. Je sais même pas c'est quoi Big Deal.
C'est ancien.
C'est vieux.
C'est vieux.
Eh ben vous vous rendez compte de l'époque.
Qui a passé vite.
Le temps, ça passe vite, hein. Mais je crois avoir aperçu le gars qui le faisait. Il est toujours à la télé.
Il est toujours là. Ouais.
Non, lui, lui, c'est intéressant pour lui parce qu'il se ramasse, il ramasse des sous. C'est ceux qui le regardent. Mais il est là pour justement gagner de l'argent. Et moi, je trouve vraiment bête de regarder des gens travailler. Bon, après, c'est votre choix.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? D'accord. Alors, on va clôturer, si Mohamed. Il y a des frères et des sœurs qui ont invité les frères et sœurs ici présents. Il y a un frère qui a invité ses frères et sœurs parce qu'ils se marient.
Masha'Allah.
Il y a un frère.
Allah yibarak lahum.
Amin.
Allah yibarak lahum, Masha'Allah.
Donc, il y a un frère qui a invité ses frères et sœurs parce qu'il voulait les inviter. Et il y a une sœur qui a invité ses frères et sœurs en sadaqa pour une personne qui était décédée dans sa famille.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته. Cette personne là, ذكر أم أنت.
C'est un garçon.
Un garçon. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جنانه. ونسأل الله تبارك وتعالى إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه. وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم يا رب اغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس parce qu'on se doit toujours, quand un de nos frères, on le perd, ou une de nos sœurs et tout ça, on se doit de faire dua pour qu'Allah descende ses miséricordes sur la personne, et inshallah qu'Allah l'accueille dans ses paradis. Donc نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم جميع أموات المسلمين. Et puis on remercie également les frères qui ont convié tout le monde aux différents événements, donc les repas, les mariages et tout ça. Les radis zoujoun, نطلب الله تبارك وتعالى أن يجمع بينهم على خير, أن يبارك لهم وفيهم وعليهم وأن يجمع بينهما في خير. وكذلك الإخوة اللي داروا الصدقة, نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأفطر عندهم الصائمون وأكل طعامهم الأبرار وصلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى الإخوة المجتمعين, نسأل الله أن يجعل قلوبهم وأرواحهم متحابة متقاربة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في خير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.